Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Emmanuel Macron réclame 13 milliards d'économies budgétaires aux collectivités locales, un effort qui passe mal chez les élus locaux réunis au Sénat pour écouter le président. Le reportage de Christine Moncla dans un instant. Le gouvernement réfléchit à la mise en place de prérequis pour rentrer à l'université. Objectif, en finir avec un taux d'échec record, surtout au niveau de la licence. Les explications de Sophie Bécherel. La nouvelle direction du Parti Socialiste tenait sa première réunion ce soir. 28 dirigeants autour de la table, en quête d'une solution pour relancer un parti sonné par sa débâcle électorale. Nous verrons cela avec Valentine Joubin. L'Italie renonce pour l'instant à introduire le droit du sol. Le projet est repoussé à l'automne. La nationalité italienne repose aujourd'hui sur le droit du sang. La correspondance à Rome de Mathilde Imberti à la fin de cette édition. L'armée, la police, la justice et maintenant les collectivités locales. La liste des secteurs soumis aux économies budgétaires n'en finit plus de s'allonger. Emmanuel Macron et son Premier ministre Édouard Philippe ont demandé ainsi de nouveaux efforts aujourd'hui lors de la première conférence des territoires. Les collectivités devront économiser d'ici 2022 13 milliards d'euros. Ajoutez à cela la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages et la facture commence à devenir un peu trop salée pour de nombreux élus locaux. Le reportage au Sénat de Christine Moncla.
On peut construire la confiance en dépit et même avec des désaccords, avait lancé Édouard Philippe en préambule de cette conférence. Sage précaution, car ce dialogue national État-collectivité territoriale démarre bien loin du consensus. Les 13 milliards d'euros d'économie ne passent décidément pas, même bien emballés dans un pacte de confiance. Le président de l'Association des maires de France, François Baroin.
On ne peut pas s'essuyer les pieds une nouvelle fois sur les collectivités locales. C'est à l'État de faire des économies. C'est l'État qui représente 80% du total global de la dette publique. Les communes ne représentent que 4,5%. Donc le gros de l'effort, c'est à l'État de le proposer.
Le Parti Socialiste dénonce lui aussi une saignée insoutenable. Et pour rester à droite, même chez les Républicains dits constructifs, l'heure n'est pas à la franche confiance. Dominique Bussereau représente lui l'Association des départements. Il tique, comme la plupart des élus locaux, sur la réforme de la taxe d'habitation que l'État s'est engagé à compenser.
J'ai été maire et je vois bien l'intérêt de maintenir un lien fiscal entre les citoyens et leurs communes. Et puis j'ai été ministre du budget aussi et je me méfie toujours de Bercy quand Bercy compense. J'ai toujours sûr qu'au bout de 2 ans, vous l'avez dans l'os parce que la compensation n'est plus celle de départ et vous êtes gros gens comme devant.
Pour Amadou et les élus locaux, Emmanuel Macron leur a promis 10 milliards d'investissements, plus de liberté d'action, plus de déconcentration et pour finir, une agence nationale de la cohésion des territoires. Une de plus, soupirait un fonctionnaire territorial dans la salle.
Christine Moncla, merci. Toujours au chapitre des économies budgétaires, les crédits alloués à la lutte contre les violences faites aux femmes pourraient diminuer de 25%. Information du Journal du Dimanche qui inquiète les associations et l'ancienne ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol. Ce chiffre de 25% n'a aucun fondement, affirme aujourd'hui Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Marlène Schiappa qui parle toutefois d'économies nécessaires sur les frais de fonctionnement de son ministère. Autre dossier important pour l'exécutif en ce début de quinquennat, l'entrée à l'université, trop souvent synonyme d'échec. 60% des étudiants échouent à la licence. Le gouvernement envisage d'introduire des prérequis à l'entrée à l'université. Alors s'agit-il d'un simple synonyme pour éviter de parler de sélection? En tout cas, le ministère de l'Enseignement supérieur lance la concertation sur ces fameux prérequis. Autour de la table, les syndicats d'étudiants, les recteurs et les parents d'élèves, avec une ambition commune, réformer rapidement le système, Sophie Bécherel.
Oui, et d'emblée, un consensus a émergé. Tout bachelier doit pouvoir accéder à des études supérieures. Lesquelles ? C'est là-dessus que le concept de prérequis est différemment interprété. Inacceptable pour la PEP, Fédération de parents d'élèves, et pour le syndicat étudiant UNEF, Lila Lebas, sa présidente.
Nous, on est contre tout prérequis qui limiterait l'accès à telle ou telle filière, qui dirait qu'il faudrait avoir tel bac, telle note, en telle matière, pour pouvoir accéder à cette filière-là. Donc, évidemment que c'est une bonne nouvelle, la fin du tirage au sort. Évidemment que c'est inacceptable. Mais par contre, on ne va pas y mettre une autre forme de sélection, sinon ce sera tout aussi inacceptable pour nous.
Pour la ministre, les prérequis, c'est une forme de franchise vis-à-vis des jeunes. Nous devons leur dire quelles sont les compétences clés et leur indiquer les chances réelles du succès dans la filière qu'ils ont choisie. Elle insiste donc sur la nécessité d'informer pour mieux orienter. L'idée d'un guichet unique pourrait émerger, selon Quentin Panisseau, président de Présence et Défense des étudiants.
Les acteurs se retrouvent principalement autour de la mise en place d'un vrai service public d'orientation, d'un vrai parcours d'orientation, ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de passage obligé d'orientation. Il n'y a pas de moment où les collégiens et les lycéens construisent leur projet personnel. c'est un vrai souci et tous les acteurs étaient d'accord pour le dire.
Tout devra se faire à budget constant, impossible selon certains, tandis que d'autres ont des idées. Tarek Marawi, vice-président de la FAGE, autre syndicat étudiant.
La réorganisation des moyens actuels, mais également l'utilisation des fonds de la formation professionnelle et enfin, pourquoi pas, mettre tout le monde face à ses responsabilités par la mise en place d'une taxe paritaire qui permettrait à chacun de contribuer à hauteur de ce dont il a bénéficié dans l'enseignement supérieur.
Dès demain, la ministre poursuit les séances de travail par des rencontres bilatérales.
Sophie Bécherel, merci. La nouvelle direction du Parti Socialiste tenait ce soir sa première réunion rue de Solferino au siège du PS. Direction très fournie puisqu'elle compte 28 membres censés représenter tous les courants. Sonné par sa double débâcle à la présidentielle et aux législatives, le PS tente de rebondir. Valentine Joubin, bonsoir.
Bonsoir.
Et ce rebondissement passe par un congrès refondateur l'an prochain.
On a travaillé dur dans un esprit de camarades sans aucun sujet tabou. Mais sans trancher aucun sujet non plus. C'est l'aveu général de cette direction collégiale, car elle a décidé de s'en remettre à l'avis des militants et des sympathisants. Emmanuel Morel est représentant de l'aile gauche du PS.
L'idée, c'est de s'ouvrir au maximum. On vient de subir quand même des défaites électorales majeures. On veut aussi avoir leur avis sur ce qu'il convient de faire, sur la crise idéologique qu'on traverse, la crise sociologique.
Une consultation sur Internet d'ici 15 jours qui doit permettre aux socialistes de définir leurs priorités pour le prochain congrès. Il pourrait avoir lieu au printemps 2018. D'ici là, l'objectif des socialistes, c'est de changer leur image pour apparaître comme un parti plus proche du peuple, un PS horizontal quand Emmanuel Macron est jupitérien et vertical. C'est la stratégie défendue par François Calfon.
Il veut caporaliser la France. Eh bien, nous allons ouvrir les forces dont nous disposons pour participer à ces mobilisations de ceux qui, tout simplement, vont être les premiers déçus du macronisme. Il y en a un certain nombre qu'on peut déjà rencontrer.
François Calfon qui a par ailleurs annoncé qu'un consensus se dégage pour vendre le siège du Parti Socialiste rue de Solferino. Une question d'argent, explique le conseiller régional francilien, mais aussi d'image, là encore. On ne peut pas diriger, dit-il, un parti de gauche depuis le très chic 7e arrondissement.
Merci Valentine Joubin. La nouvelle direction du PS se réunira désormais toutes les semaines jusqu'au prochain congrès, dans moins d'un an donc. En Italie, le gouvernement social-démocrate renonce pour l'instant à introduire le droit du sol. Le texte défendu par l'ancien président du Conseil, Matteo Renzi, a été repoussé de quelques mois. Officiellement, il n'y a pas de lien entre ce report et la crise migratoire pour laquelle l'Italie est en première ligne. Il n'empêche, le texte prévoyait l'introduction du droit du sol, le jus soli, qui existe par exemple en France. Aujourd'hui en Italie, c'est le droit du sang qui prime. Mathilde Imberti nous appelle de Rome.
Le projet de loi sur le droit du sol n'aurait pas obtenu la majorité des voix au Sénat, selon le gouvernement. Son examen est donc reporté à l'automne. La droite exulte, Matteo Salvini de la Ligue du Nord en tête, farouche opposant à ce texte qui accorderait la nationalité italienne aux enfants nés de parents étrangers, parents résidant légalement en Italie. Pour Silvio Berlusconi, leader de Forza Italia, il va susciter ce texte de faux espoirs en Afrique et rendre plus forte la pression migratoire. Une partie de la gauche regrette cette marche arrière du gouvernement. Ainsi, l'éditorialiste du quotidien La Repubblica s'insurge contre les pyromanes de la peur. Cette loi n'a rien à voir avec les débarquements de migrants, selon Marco Calabresi. Elle permettrait d'intégrer des enfants qui parlent italien, jouent avec nos enfants et soutiennent les mêmes équipes de foot. L'adoption du droit du sol donnerait la nationalité italienne à environ 60 000 enfants d'immigrés chaque année, selon l'Institut de Statistique Nationale.
Mathilde Imberti, correspondante de Radio France en Italie. Retour en France avant de passer à la météo. Un point sur la sécheresse qui commence à devenir inquiétante. Les trois quarts des nappes phréatiques françaises sont déficitaires. Seuls 26% ont un niveau conforme ou supérieur à la normale saisonnière, selon le BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière. Cette sécheresse provoque des incendies de forêt dans le sud-est. À Castagnier, au nord de Nice, une centaine d'hectares de végétation ont été ravagés par les flammes aujourd'hui. Le feu qui menaçait les habitations est sous contrôle ce soir. C'est ce que viennent d'affirmer les pompiers et la préfecture des Alpes-Maritimes. La météo demain, soleil et très forte chaleur au programme avec toutefois un risque orageux sur l'ouest et le nord-ouest de Poitou-Charentes au Hauts-de-France. Les températures maximales largement supérieures aux normales de saison, 32 à 35 degrés en général, environ 36 à 37 degrés à Paris, jusqu'à 38 degrés dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.